Non, non,
ça sera payé par le... C'est la chose qui... Je vérifie juste que...
C'est pour le démarrer.
Ça y est, il est démarré.
Il est démarré.
Ok. Donc, tu n'attends plus personne, toi, de ton côté?
Moi, de mon côté, j'attends plus personne. Donc,
on commence ici ou qu'est-ce que tu suggères?
On va filer sur le boulevard de Rochechouart directement. D'accord. Ça nous rapprochera un peu du musée. En tout cas, je suis très heureux de vous rencontrer tous les deux.
Moi aussi, c'est bien. C'était vraiment une occasion extra, Lucie, quand même. Il faut qu'on aille voir ces conférences, écouter les conférences. Et puis, comme tu as proposé ça, j'ai trouvé ça encore mieux, quoi. Une balade de conférence, c'est sympa.
Malika, mon amie avocate, sa petite fille, c'est une amie du petit-fils de Gaston Leroux.
Oui, mais tu sais, Gaston Leroux,
l'écrivain.
Ah, oui,
c'est une amie du grand, du descendant du petit-fils.
Ah oui, d'accord.
Attention. Là, c'est pas un
nouveau. Attention, Michel.
Le cabaret du Chat Noir,
il était au 84, le boulevard de Rochechouart. Ma chérie, je te laisse organiser, parce que moi, tu sais.
Sans Richard. Avec Richard ou sans Richard?
De toute façon, si moi, si je disparais, vous vous en apercevrez quand même, parce que je suis seul à faire la conférence.
Ah non, si on veut remplacer, hein. Moi aussi. Il y a personne pour remplacer. Ça, c'est sûr.
Je pense que ce qu'on va faire, on va passer sur le terre-plein central quand on arrivera là-bas.
On ne peut plus passer sur certains centres. Ah oui, au milieu, mais là, tu ne peux pas. Hein.
Non, non. Que pour faire la conférence, si on est sur le terre-plein, ça sera plus facile. Enfin, début de conférence, parce que je ne sais pas. Puis en plus, ils sont en plein de travaux partout.
Ah ouais. Ah oui. Il y en a qui aiment bien être derrière, j'espère. Vous voulez ma place? Vous voulez venir devant?
Non, c'est pas du tout.
On traverse quoi?
Moi j'aurais traversé là-bas, mais enfin, parce que là c'est pas pratique.
Mais le boulevard, vous êtes par là, non?
Oui, mais le boulevard de Rochechouart, il est là-bas.
Ah oui. Oui, il est là.
Reste ici. Voilà. On va au boulevard de Rochechouart, là-bas.
Ah, d'accord. Oh là là, c'est chaud, pas dimanche, hein.
Je comprends rien alors que voilà, ça passe, pas de problème. Voilà.
T'enregistres,
là ? Ah bah j'enregistre, mais j'ai rien enregistré pour l'instant. Le micro, il fonctionne.
Où est la voiture ? Il y a tellement de gens.
Quoi ?
Il y a tellement de gens.
De toute façon, il n'y a plus le moyen de savoir où il était exactement. Hein. Comme les numéros ont changé, ce qui explique qu'il y ait deux bornes différentes.
Ça n'a pas toujours été écarté.
Non. Eh ben non.
Oh, moi, j'en sais rien où il est.
Je découvre tout.
Le problème, c'est que...
Ici, là.
Oui.
Là. En attendant que ça tourne.
Ouais, mais...
Si je trouve une grosse écharpe, je t'achète une écharpe. Ah, bah peut-être, ouais.
J'en ai tout le long avec marqué Paris.
Ah bah tiens, Paris, ça ira avec son machin, là. Je le prends au dos. Je vais faire un caniveau, là.
On monte.
Maman, il y avait une écharpe qui me pose dans la dernière.
Alors, après, si on vient prendre un...
Oui, mais là, voilà.
Bien. On peut peut-être s'arrêter là un petit peu. Bien. Quelques mots pour vous situer le contexte quand même. Là, on va arriver au boulevard de Rochechouart, donc où était situé l'emplacement du premier chat noir. En principe, au 84 boulevard de Rochechouart. Bon. Cela étant dit, vous verrez, il y a deux bornes différentes actuellement parce qu'on est incapable de le situer du fait que les numéros du boulevard ont changé. Alors, je vous rappelle quand même que le premier chat noir a été créé en 1881 par Rodolphe Salis, lequel était de naturalité suisse puisque sa famille était native des Grisons. Son père, lui, était un brasseur installé en France. Le fils a commencé par peindre des bons dieuseries qu'il vendait à Saint-Sulpice avec ses copains, puis ça marchait pas très fort. Il s'est dit bon, alors il demandait de l'argent à son père lui disait écoute, tu vas quand même essayer de faire quelque chose de ta vie, tu vas pas peindre des trucs comme ça jusqu'à ta mort. Alors lance-toi dans le commerce. Alors, du coup il avait repéré un relais de poste qui était tout petit, qui faisait 3 mètres sur 4 je crois à l'époque. Il a pris un bail, il a ouvert donc une sorte de café-restaurant qui faisait également music-hall. Il a commencé par exploiter les artistes en disant vous allez vous faire connaître chez moi, vous allez vous produire, mais ne les payez pas. D'ailleurs on disait toujours que la seule chose qu'il exploitait finalement c'était les artistes. Hein. Alors, pas le talent comme on l'a dit si souvent. Alors, pour comprendre cette époque, il faut savoir qu'on sort pratiquement, on est à 11 ans de la guerre de 1870, avec la fameuse défaite qu'on connaît à Sedan. Le peuple mécontent, d'autant plus mécontent qu'ils n'ont pas du tout l'intention de livrer Paris aux Prussiens qui vont rentrer dans la capitale. En plus, le gouvernement de Thiers déplace la capitale de Paris à Versailles, et on demande aux Parisiens de Montmartre de restituer les canons qu'ils ont payés sur leur denier. Donc ils refusent. Élection à Montmartre, élection libre et démocratique, gouvernement de la commune, lequel n'est pas reconnu par la droite réactionnaire de Versailles, et ça engendre les événements qu'on connaît, à savoir les barricades, quelques morts du côté, notamment du côté ecclésiastique, avec des otages qui sont fusillés rue d'Axo, mais également la répression qui suit, la semaine sanglante, effectivement ça dure une semaine, d'après les chiffres officiels 20 000 morts, d'après Louise Michel 100 000, plus 100 000. Il faut savoir que ça fusillait à longueur de journée, sans discontinuer, et que les ruisseaux étaient rouges du sang quand même des condamnés. On a même fusillé des types qui n'y étaient pour rien, sur dénonciation, comme ça se fait toujours dans ces périodes-là. Le fameux Eliphas Lévy, l'abbé Constant, a dû avoir la vie sauve parce qu'on a fusillé à sa place un homonyme. Donc, c'est vous dire un peu la pagaille qui régnait à l'époque. Ce qui a suivi cette répression sanglante, eh bien, la plupart des artistes qui étaient des hommes de gauche, socialistes à l'époque, on disait socialistes, communards, c'était la même chose, se sont exilés, ils sont partis en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, et de nombreux artistes sont partis en Suisse. Ça explique la fondation du Chat Noir par la suite, puisque sa famille était des Grisons, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les artistes qui ont présidé à l'inauguration et à la vie de ce cabaret, c'était Valoton, qui était un peintre suisse, c'était Alexandre Stenlen, qui était suisse également, c'était le Grasset, vous savez, c'est l'homme qui avait dessiné le logo du dictionnaire Larousse, vous avez une femme qui souffle sur... Grasset était suisse également. Tout ça, c'était le milieu libertaire, donc anarchiste, français, exilé en Suisse, et qui, avec l'aide de leurs homologues, donc de Genève et de Lausanne, de Zurich, etc., ont décidé de réagir contre la culture qui s'était installée en France. Alors effectivement, à partir du moment où la commune a été réprimée, on a assisté à quelque chose d'assez surprenant, enfin d'extraordinaire, c'est la montée de l'industrialisation et du commerce pratiquement intensif. Donc ça a été des rythmes qui se sont accentués dans les usines, ça a créé de l'emploi, c'est vrai. Le pouvoir d'achat a augmenté, mais ce n'était pas dénué quand même de barrières pensées, puisque plus on produisait, plus il fallait écouler. Et, si, et les gens les plus huppés étaient, pas les seuls à pouvoir, étaient les seuls à pouvoir consommer à l'époque. Donc il fallait absolument que la masse française puisse consommer également pour écouler tout ce qui sortait de la production. Donc les salaires se sont mis à augmenter du jour au lendemain. Voilà la situation telle qu'elle était à l'époque. Et donc, en même temps, s'est développée une culture qui était une culture totalement affligeante, débilitante. Ça ressemblait vaguement à la télé-réalité d'aujourd'hui. C'est ce qu'on a appelé la culture des cafcons. Et c'est là que les anards ont décidé finalement de créer une espèce de contre-culture, un courant souterrain qui aurait doublé la culture officielle. Et ils ont décidé de créer des cabarets. Alors on parle souvent du cabaret du Chat Noir, on parle du Mirliton de Bruant. On parle également souvent du Perroquet Gris et de quelques autres. Mais on ignore qu'en général, à cette époque à Paris, il y avait beaucoup plus de caveaux, en fait, que ces caveaux les plus connus, comme le ciel et l'enfer aussi, etc. À titre de curiosité, savez-vous combien il y avait à peu près, toutes tendances confondues, c'est-à-dire entre la rive droite et la rive gauche, de cabarets en France à la fin du 19e siècle? Aucune idée? Il y en avait plus de 110. Et ils se sont pratiquement tous créés en même temps. Donc c'est quand même pas un hasard. À mon avis, ça a été monté. Et vous comprendrez pourquoi quand on avancera un petit peu dans cette conférence. Parce qu'on est dans un milieu qui est à la fois un milieu, je dirais, de politique extrême gauche, d'artistes engagés à ce niveau-là aussi, qui d'ailleurs bizarrement frayaient avec des gens d'extrême droite. Hein, c'était un milieu assez composite à l'époque. Il n'y avait pas de division de caste comme on le sent aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, les gens sont assez compartimentés, ils vivent chacun de leur côté. À l'époque, dans ces cercles littéraires, dans ces cercles artistiques, dans les salons littéraires, tout le monde se fréquentait. Alors, on s'engueulait parfois, on se battait en duel également, mais au moins on avait le mérite d'échanger des idées et de se fréquenter. Cela étant dit, dans le domaine des cabarets, on était surtout dans un groupement anarchiste, hein, pur et dur, de libertaires, pur et dur. En plus, il ne faut pas oublier non plus qu'on était à quelques années de la grande vague des attentats à Paris, notamment les années 93-94, où on a commencé à parler de gens comme Vaillant, qui avait lancé une bombe à la Chambre des députés, Ravachol, qui était monté de Saint-Étienne sur Saint-Denis, et qui a commis quelques attentats, Émile Henry, qui était le pire de tous, puisque lui prétendait qu'il n'y avait pas de victimes innocentes, il foutait ses bombes n'importe où. Hein, c'est... Donc voilà, c'est à peu près le climat qui régnait à l'époque, et ça explique aussi ce côté nihiliste de l'art français. Donc on va se promener sur le boulevard, on va passer devant l'actuel 84, vous allez voir au passage deux plaques, enfin une borne et une plaque, vous disant que c'était là qu'était l'ancien chat noir. En réalité, on n'en sait rien parce que les numéros ont changé entre-temps. Et il y a même, avant qu'on remonte vers le musée, vous verrez un café. Alors il a changé, ça a été repris par des jeunes, ils ont tout modernisé. Il s'appelle toujours le chat noir, mais à l'époque, c'était truffé de tableaux de l'époque, cette reproduction, de souvenirs de cette époque-là. Maintenant, c'est devenu pratiquement un endroit comme un autre. Donc c'était là que c'était installé. Alors, mettez-vous aussi dans l'esprit de l'époque, ce qu'on pouvait y voir. Ici, c'était un boulevard où vous aviez des apaches, hein, donc des voyous. Vous aviez des gens dont le nom était rendu traditionnaire en 1839, qu'on appelait des alphonses, c'est-à-dire des souteneurs, hein, des harengs. Et puis les penantes, hein, les chevaux, les filles qui faisaient le trottoir. Et c'était assez mal famé. Hein. Ce qui faisait que quand Sadis a démarré, il était obligé quand même de faire la police. Bon, cela étant dit, il était soutenu par la police officielle et par Jules Grévy, qui était le président du conseil, et qui était un grand admirateur des cabarets, notamment du Chat Noir. Et à chaque fois qu'ils avaient des ennuis parce qu'on leur reprochait de faire du tapage nocturne, la mairie de Paris, la police, le président du conseil, tout le monde intervenait en disant non, ne fermez pas le Chat Noir, au moins on s'y amuse. Hein, donc, et ce sont les pressions en fait qui ont fait qu'il n'a jamais fermé. Jusqu'au jour où un de ses employés a été tué. Alors on n'a pas très bien su ce qui se passait. Il semblerait qu'il l'ait viré, que l'employé l'ait fait chanter, qu'il soit revenu avec des petites boîtes pour lui faire un sort. Et comme Sally, c'était quand même un costaud un peu sanguin, il a attrapé un pare-fenêtre, il s'en est servi, il l'a semé avec, il l'a tué. Alors il a été déféré devant la justice, et puis l'affaire a été étouffée. Alors on le sait maintenant depuis quelques années, tout simplement parce qu'il était franc-maçon et que les amis francs-maçons sont intervenus pour que ça n'aille pas jusqu'aux assises. C'est un milieu maçon, hein, si c'est, il faut savoir, je vous lirai un petit passage tout à l'heure tiré de l'ouvrage de Fulcanelli qui s'appelle « Les demeures philosophales ». C'est ce qui, à l'époque, m'avait incité à faire des investigations dans ce domaine-là, parce que je m'étais aperçu que ça n'avait rien à voir, mais vraiment rien, avec ce que l'histoire officielle expliquait. Donc on va avancer, puis on va passer devant les différents chats noirs. Vous voulez qu'on vous attende quelques instants, non?
Richard Ketzing, hein, j'ai pas pu m'approcher, il y a tellement de monde autour de Richard. Tu peux résumer en quelques mots?
Ça va être très difficile de tout résumer parce que j'ai été très loquace, mais c'est enregistré là, donc éventuellement tu peux t'arranger.
Ah, tu as déjà enregistré
oui,
là.
Donc je pense qu'ils pourront te donner une copie de la bande.
D'accord. Non, mais c'est difficile à approcher quand même.
Oui,
hein,
oui, tout à fait. Il y a beaucoup de monde et en plus il y a du bruit autour. Ouais. Donc là j'ai le micro, tu vois, donc il n'y a pas de problème. On entendra parfaitement sur la bande.
Donc, tout à l'heure j'écarterai avec mes coudes et puis je me rapprocherai de
voilà,
toi pour,
tout à fait.
Pour pouvoir enregistrer.
Quand on sera au musée, ça sera sans doute un peu plus calme.
Là, on est boulevard de Clichy. Hein.
On est boulevard de Clichy, dans le prolongement de...
On passe devant le théâtre des Deux Ânes de mon copain Jacques Maillot.
Oui, tout à fait.
Hein.
On passe également devant le Moulin Rouge, alors qui est indissociable aussi de l'histoire du quartier, hein, le Moulin Rouge. C'est l'époque du Cancan. Hein.
C'est un vrai moulin qui a été reconstruit.
Oui, oui, tout à fait. Mais à l'époque, on voyait ces demoiselles d'ailleurs sur des ânes dans la cour.
Ah d'accord, d'où le théâtre des Deux Ânes.
Sans doute, oui. Sans doute. Puis là, il y a la cité Véron également à côté, qui avait habité Boris Vian, si je me souviens bien.
C'est un truc où il y a des artistes, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Oui.
D'accord. Il y a quelques sextoys quand même encore. Hein. Ils n'ont pas disparu.
Non, non.
C'est
non.
Pas vraiment un parcours initiatique.
Non, c'est pas vraiment un parcours initiatique, mais bon.
D'accord, ben, je me rapprocherai de toi tout à l'heure. Quand tu vas reprendre... On va commencer la visite par quel endroit exactement?
On va commencer par le musée de Montmartre. Enfin, je vais vous montrer quand même...
Les différents... Celui qui veut le faire disparaître?
Ou celui qui veut le faire disparaître. C'est justement pour ça qu'on y va, en espérant qu'ils voudront bien d'ailleurs...
Nous accueillir?
Nous accueillir d'une part, et d'autre part nous dire quelques mots, de façon à ce qu'on répertorie ça, qu'on répercute ça sur les ondes.
Sur le site aussi, ouais.
Sur le site,
ouais. Tu sais, ils ont fêté le 74e anniversaire de Michou.
Oui.
Non, le 80 Valet Michou.
80 et quelques, je crois.
Ouais, ouais. Oui, parce que je reçois régulièrement, tu connais le site de la République de Montmartre?
Oui, oui, je le connais. Ils sont très actifs en fait, avec notamment pour tout ce qui est... Enfin, Michou est très actif concernant les personnes âgées. Pendant un moment d'ailleurs, ils invitaient tous les ans au Moulin Rouge.
Des gueuletons, des trucs.
Bon, cela étant dit, c'est quand même le milieu de la mairie du 18e, Vaillant et compagnie. Et c'est justement de là que vient l'idée de fermer le musée de Montmartre. Hein, donc,
merci Monsieur Vaillant.
Alors, merci Monsieur Vaillant, merci surtout Monsieur Delannoy, parce que c'est Monsieur Delannoy qui est derrière, compte tenu du fait qu'il voulait construire à la place du musée, enfin il voulait raser le musée, se débarrasser de l'association archéologique de Montmartre et mettre à la place, construire à la place, enfin mettre en place une opération immobilière de grande envergure. C'est vrai, évidemment, on est avenue Junot hein, quand même, donc pas très loin de l'avenue Junot, c'est rue Courtauld. Hein, alors le terrain vaut très cher, ce sont les Champs-Élysées de Montmartre, donc tant qu'à faire, autant exploiter. En fait, le moindre mètre carré, ça doit rapporter.
C'est bien à Montmartre qu'il y a le musée Dalí aussi.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Aussi, d'accord. Bon, allez.
On va traverser parce
on va
que sinon...
On va pas prendre de retard.
Ils nous attendent à peu près vers 4 heures. Donc. Voilà. Là, il y a...
Alors, de temps en temps, tu te fais tomber, donc c'est pas faire le bruit de tonnerre.
Le Moulin Rouge doit avoir il y a quand même beaucoup de
trucs. Qu'est-ce que tu me dis?
On
s'arrête un petit peu plus loin là. Alors on va faire le début du boulevard là.
Oui.
Je vais vous montrer où était le chat noir, où supposait être le chat noir. Et puis ensuite on remonte sur le musée.
D'accord.
Et on fera l'église et l'impasse Marie-Blanche en dernier.
D'accord. On fait la rue Le Pic aussi là.
Une partie de la rue Le Pic sonnerie. Oui, bah vous pouvez voir le café où a été tourné soi-disant Amélie Poulain.
Vraiment intéressant.
Ah, je voulais te demander, est-ce que tu refais... refait cette année, parce qu'on m'a demandé, est-ce que tu refais une balade Bagatelle, oui.
Alors Bagatelle, l'idéal, ça aurait été de la faire en juin, mais là je peux pas, parce que je pars en vacances fin juin, une semaine.
Ou en septembre. Hein.
Mais on peut faire ça en juillet, août ou septembre.
Juillet, août, septembre.
En faisant attention, parce que je risque de repartir quelques jours aussi, je sais pas quand, en septembre, je crois.
Juillet, ça serait pas mal.
Non, juillet, ça serait pas bien.
C'est en vacances.
Bah, du 12 au 31, donc première quinzaine de juillet, d'accord, mais pas après.
Alors on a dit qu'à septembre, après il fait pas beau.
Non, je... Non, pas. Et vous, vous faites quoi au quotidien?
Moi je suis retraité, heureux comme un roi, bien content de l'être.
C'est mieux que comme un pape ou...
Je suis à la fois heureux comme un roi et comme un pape. J'ai été aussi libre de ma vie. Je comprends pas d'ailleurs qu'on veuille forcer les gens à travailler jusqu'à 62, 65 ans.
Après, ça dépend parce que vous êtes finalement aussi actif que...
Non, mais même, moi je considère que les gens qui ont travaillé toute leur vie, que ce soit même intellectuellement ou physiquement, à 60 ans, ils sont crevés. J'ai travaillé pendant 25 ans dans la finance, je sais ce que ça donne. Hein,
c'est... Ouais.
Et après, je me suis payé le chômage pendant des années. Et puis j'ai publié, 6 mois après mon chômage, j'ai publié un bouquin. Ah ben voilà, on y est là. 76. Bon, peut-être ça arrête un peu. Parce... Annie ? Stop ! Où tu vas là ? On s'arrête là ? Oui, mais...
Malika n'est pas là par contre, mais...
Non, bon, on va l'attendre.
Ils sont une chanoire.
Merci. Alors ils l'ont tout refait, mais alors il a plus du tout, il est plus du tout comme avant, parce
qu'ils
l'ont
refait
bien.
Excusez-moi.
Bien. Tu peux y signer. Tu peux y aller. Vous avez là le vestige donc du bistrot du chat noir, mais qui n'a rien à voir en fait avec l'ancien cabaret, puisque vous voyez que là on est à peu près au 70, je crois. Au niveau des numéros. Par contre, le 84 se trouve un petit peu plus haut vers le Moulin Rouge. Il reste juste une stèle qui indique que là aurait été situé le chat noir. Mais comme les numéros ont été changés, c'est difficile de savoir où exactement. D'ailleurs, à côté d'un hôtel, vous avez une deuxième plaque en disant que c'était là que se tenait le chat noir. Donc à 20 mètres peut-être de distance. Donc, toujours est-il que c'était sur cet emplacement, c'était sur... Alors maintenant, c'est le boulevard de Clichy, mais à l'époque, c'était le boulevard de Rochechouart. Hein. Ça a été... La dénomination a changé, je crois, à la fin du 19e, début du 20e, hein, si je me souviens bien. Donc, imaginez à l'époque, les gens en goguette, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, la clientèle du Chat Noir n'était pas essentiellement composée d'artistes, de gens du peuple, etc. Mais il y avait des gens de la haute bourgeoisie, voire du pouvoir, qui venaient s'encanailler. Alors, évidemment, notre Salis, qui était un battleur et un bonimenteur fini, il arrivait à les attirer très facilement. Et non seulement il les attirait, mais il leur faisait payer très cher une nourriture bas de gamme, à savoir qu'il leur servait des frites, des bocs, parce que son père étant brasseur, il avait la bière à des prix intéressants. Il mettait le boc ou le lit très cher, et toute la nuit ça tournait. Et lui, il n'avait plus qu'à voir le tiroir caisse. Il a compté. Ça a duré des années, ça a duré en fait pour la première période jusqu'en 1885. En 1885, il était un peu à l'étroit. Il y avait de plus en plus de gens qui venaient dans son cabaret. Il a donc décidé de s'agrandir. Il est parti rue de Laval, qui a changé de nom d'ailleurs depuis, qui s'appelle la rue... Ça va me revenir. C'est, toujours est-il,
la rue, ça va me revenir.
Non, non. C'était la rue de Laval, c'est devenu la rue... Bon, le nom m'échappe. Toujours est-il qu'il a loué à ce moment-là un hôtel particulier qui était celui du peintre Alfred Stevens. Et là, ça lui a permis d'avoir une clientèle beaucoup plus importante. Et ce qui a fait des beaux jours à partir de 1886-87 du deuxième cabaret du Chat Noir, c'était une attraction dont l'équivalent n'existe plus de nos jours, c'est le fameux théâtre d'ombre. inventé par Henri Rivière. Alors c'était pas du tout un théâtre d'ombre pour enfants, c'était quelque chose d'extrêmement sophistiqué, avec une machinerie extrêmement importante, des décors importants également, des silhouettes en zinc où en étain dessinées les premières par Henri Toulouse-Lautrec, Toulouse-Lautrec en personne. Et donc le principe, je vous le rappelle, ben, on a des silhouettes en zinc ou en un autre métal qui sont éclairées par un projecteur, dont les silhouettes se découpent sur un écran, et donc vous avez ce qu'on appelle un théâtre d'ombre. Vous avez des ombres chinoises qui sont projetées sur cet écran. Cela étant dit, évidemment, si vous avez des ombres en noir, par alternance, vous avez des blancs aussi, et ces blancs, ils ont une certaine importance, on y reviendra tout à l'heure. Et il est peut-être intéressant de savoir que le... C'est ce que je disais, une manifestation, là. On est bon pour le ballon. Il est important de savoir que, technologiquement parlant, un théâtre d'ombre, c'est quoi? Ça repose sur une définition extrêmement simple. C'est la permutation de la forme par la lumière, tout simplement. Ce qui est également la définition par extension du cinématographe, évidemment. Curieusement inventé soi-disant par les frères Lumière. J'ai quelques doutes sur l'authenticité de la propriété du brevet. D'autant que quand Méliès a voulu obtenir l'exploitation du brevet, il s'est adressé aux frères Lumière qui m'ont dit « Pourquoi vous y croyez? Vous, à ce truc-là, ça ne marchera jamais. » Curieuse démarche de la part d'inventeur qui était censé exploiter quelque chose qui devait marcher. Donc ça veut dire qu'ils exploitaient un brevet pour quelqu'un d'autre, a priori. Et ce qui devient intéressant, c'est quand on lit dans un ouvrage d'alchimie qui est en relation directe avec ce que je suis en train de vous expliquer, c'est un ouvrage qui... Il y en a eu deux, il y en a un qui s'appelle Le mystère des cathédrales, l'autre qui s'appelle Les demeures philosophales, publié en 1926-1930, mais qui était en gestation, en écriture, depuis 1885. Donc on est dans la bonne période. Et dans le deuxième ouvrage, Les demeures philosophales, l'auteur explique que l'alchimie, c'est la permutation de la forme par la lumière, virgule, le feu, virgule, l'esprit. Retrouver une identité de définition entre l'alchimie, le théâtre d'ombre et le cinéma, c'est quand même très intéressant, et ça chatouille quand même l'esprit quelque part. Ça suscite quelques interrogations. Donc on va continuer, maintenant on va filer sur le musée de Montmartre.
Théâtre d'ombre, les frères Lumière. C'est sympa comme elle.
Oui, bien sûr. Hein?
Dis-moi, l'insigne là-bas, comment ça s'appelle? Le petit crobard avec le chat noir. De loin, est-ce que ça te rappelle un peu l'hippocampe?
Ah, tout à fait. De toute façon, j'allais y venir et j'y viendrai plus avant au musée de Montmartre. Il y a une constante dans l'œuvre de Steinlen notamment, qui a peint les affiches au démarrage pour le chat noir, c'est que partout en trompe-l'œil, vous avez un hippocampe qui se dessine. Je vous en montrerai très net sur un document que j'ai amené. Or, il faut savoir que le premier ouvrage d'alchimie dont je parlais, Le mystère des cathédrales, se clôt sur un blason de complaisance, les armoiries, et l'animal qu'on voit sur le blason, c'est un hippocampe, c'est donc la signature de l'auteur. Or, à l'époque, on retrouve cet hippocampe qui se balade aussi bien dans les livres de Jules Verne que dans les toiles des peintres tels que Toulouse-Lautrec, Steinlen, Léandre, etc. On retrouve ça également chez Odilon Redon. Oui, oui. Il y a au moins une toile d'Odilon Redon où on voit un hippocampe. Alors j'avais posé la question à la petite nièce de Jules Verne, parce qu'elle était peintre et médium. Et je lui ai dit, c'est curieux, vous peignez des hippocampes partout, votre grand-père en parlait aussi dans ses bouquins. Et elle m'a dit, écoutez, je ne sais absolument pas pourquoi. Quand je peins, elle est en état d'extase, elle est entre deux mondes, elle me dit, ça s'impose à moi, je peins des hippocampes. Donc elle m'avait dédié son bouquin à l'époque, elle m'avait dédicacé. Mais elle sait qu'il y a quelque chose, ça a quelque chose à voir avec l'œuvre de son grand-père et le milieu qu'il fréquentait. Sachant quand même que Jules Verne était l'un des principaux actionnaires et soutiens du deuxième chat noir. Comme ses amis Camille Flammarion, comme leur ami Nadar, comme leur grand copain Ferdinand de Lesseps, lequel d'ailleurs, grand chevalier d'industrie, avait fait obtenir la Légion d'honneur à Jules Verne, comme Mistral qui était le chantre du renouveau du Félibrige. D'ailleurs, il y a une homophonie presque parfaite entre Félibrige et le félin libre, ce qui était donc le symbole du chat, qui était le... On sait très bien qu'un chat, c'est... on n'habite pas chez un chat. On habite chez un chat, c'est pas lui qui habite chez nous. Hein. C'est l'animal le plus anard qui soit, hein, de toute façon. Un chat, si ça décide de prendre un meuble chez vous pour en faire son canapé, il n'y a pas de problème, vous ne pourrez plus vous asseoir. Hein. Donc, ce félin, contrairement à la légende et tout ce qu'on raconte au niveau des anecdotes, ce félin, c'était vraiment l'emblème de la commune libre de Montmartre. Voilà, on va pouvoir avancer. Pas du tout, parce que on va négocier, donc
on peut essayer de parler plus fort.
Oui, mais
quand même, enfin, je sais bien que c'est peut-être pas la voix qui porte assez, mais avec le bruit ambiant, ceux qui sont un tout petit, ceux qui sont pas juste en face s'entendent très mal. Alors, si tu peux essayer
pousser pour passer,
la prochaine fois tu as un dictaphone ou
pour tout voir. Ouais, mais là c'est pour le coup qu'on est embarqué par les flics, là. Il faut une manif.
C'est par là,
c'est par là, oui. Vous remarquerez quand même un immeuble moderne style aussi là qui date à peu près du début des années 1920. Hein. Déjà ça changeait par rapport à... Il a été rénové, il a bien été rénové d'ailleurs.
Là,
rien du tout, ce sont des tout jeunes, ils exploitent uniquement un bistrot restaurant. Oui, on est au 70.
Donc, c'est pas le numéro, donc...
Non, on est au 80. En fait, on doit être au 80. Il doit être au 84, un peu plus haut.
Et la plaque, on n'a pas vu la plaque.
La plaque, non, parce que non, elle est à côté d'un hôtel. Moi je suis persuadé que c'est l'homme qui a signé les bouquins Phil Kennedy, qui a déposé le brevet et qui leur a concédé. Au même titre qu'on n'explique pas que Raymond Roussel, par exemple, ait déposé un brevet sur l'utilisation du vide. Et quand on en a parlé à sa maîtresse de façade, on lui a dit, mais Roussel, il a déposé un brevet sur l'utilisation du vide. Elle a répondu, Roussel, ça m'étonnerait. Monsieur Roussel était écrivain, simplement il est millionnaire dilettante. Et sa maîtresse a répondu, Monsieur Roussel est même incapable d'ouvrir une bouteille de vin.
Ah ouais. Alors qui était ce fameux...
C'est Joubert.
Ah ouais.
Non, je ne démords pas, je vais en produire les
preuves. C'est Champagne.
C'est Champagne.
Ah ouais.
Champagne, c'était uniquement le dessinateur. Champagne, c'était le dessinateur, il a fait des expériences au bois de Boulogne, il a fait péter d'ailleurs sa préparation, et il était blessé à la jambe.
Ah bon ?
Ah oui ?
Mais je prouverai que Champagne, de toute façon, était l'élève de Joubert, du jeu. Donc, j'ai des documents photo. Pas des gens ensemble, mais du laboratoire. C'est le même.
Ah oui.
La même cheminée.
Ouais, cinéma, en fait, c'est... participe de ce, pas de ce grand œuvre, mais de...
Ils ont en fait comme passer par la littérature, ils ne savaient même pas d'ailleurs si ces notes allaient être publiées. On n'est pas en 1926, on est entre 1881 et 1900. Il s'est dit, il faut, si vraiment je veux laisser une trace de mes travaux, de ce qu'est l'alchimie, etc., il faut que j'utilise à la fois la peinture. Donc il a demandé à Stenlen et à tous les autres notamment de dissimuler des trompe-l'œil partout. Et surtout, bon, il a utilisé la littérature plus tard, à partir de 1905 avec des gens, enfin un petit peu avant 1905 avec Jarry, Roussel, Leblanc par la suite en 1905, Gaston Leroux un petit peu après. Mais surtout, il s'est dit, si j'arrive à attirer l'attention sur le fait que le théâtre d'ombre, comme le cinéma, sont liés sont des technologies qui illustrent la définition de l'alchimie, il y a bien quelqu'un qui va commencer à poser des questions quand même. C'est comme ça que j'ai remonté la piste. Simplement, c'est qu'il y a quand même des curiosités autour de tout ça. On le verra tout à l'heure quand on va parler des hydropathes également.
Alors, oui, mais moi la grande question que j'ai, c'est à l'époque, à notre époque, de la théorie des supercordes, des multicordes, c'est quoi l'intérêt de rechercher ces vieilleries entre guillemets du 19e? Qu'est-ce que tu voulais nous dire à travers ça? Quelque chose de très simple, quelque chose de...
Ce qu'il voulait nous dire à l'époque.
Allez, le blanc, là,
non, eux ce n'était que des véhicules. L'important c'est quoi? L'important c'est qu'on est en présence de gens qui continuent à véhiculer la science du Moyen-Âge, de la Renaissance, voire de l'Antiquité. Cette vieille science alchimique qui a été totalement critiquée par la science officielle. On a dit ce sont des hommes, ce sont des gens qui ne comprennent rien à rien.
Ah ben le passage le pique.
Non, rien de spécial. Faut pas oublier qu'à l'époque. Amélie Poulain, ouais. À mon avis, s'en fiche un peu.
Bon. Ah, t'es dans le restaurant, là, le café.
Oui.
Ah oui, d'accord.
C'était très tentant, la rue, là, avec tous les trucs qui sont bons.
Ouais.
Les fruits, les machins.
Ah ben... T'es dans la rue de Pique, hein, là. Oui, donc, je te disais... Le problème, c'est que... On leur a reproché la théorie de l'unité de la matière à l'époque. Or, quand tu vois l'évolution de la physique des quantas, qui avait raison? Les alchimistes du Moyen-Âge, puisqu'il y avait l'unité de la matière. Tout le monde est d'accord pour le dire.
Oui, mais ils ne le prouvent pas, ça n'arrive pas à trouver.
Attends, ils ne le prouvent pas. Quand tu as la définition, quand tu as la définition de Baume qui te dit la matière n'existe pas, elle n'a qu'une propension à être, donc elle est virtuelle. Quand il te dit également que la matière c'est un comportement rendu sensible à un événement devenu tangible, on est quand même dans l'unité de la matière. Là, hein, c'est... Et quand De Broglie te dit que à la source de toute matière, tu n'as vraisemblablement que de la lumière, c'est quoi? C'est l'unité de la matière. Quand Heisenberg te dit, dans son principe d'incertitude, qu'en fonction de l'expérimentateur, de sa présence, de sa qualité, le résultat expérimental est jamais le même, c'est la théorie alchimique. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la science, elle étudie la vie à partir de la vie. Tu ne peux pas comprendre les secrets de la vie et de la mort à partir de la vie. Par contre, tu peux les comprendre à partir de l'observation de la mort, de la décomposition. Le secret de la vie, il est dans la mort, pas dans la vie.
Ouais, mais plein de fois.
Alors,
c'est très basique, mais la biologie et médecine, c'est quand même l'étude, c'est l'étude du corps, ça n'a jamais été autre chose que l'étude des parties du corps. Pour comprendre la totalité, il y a toujours eu un gap. Enfin, on n'a jamais que pu étudier la mort pour comprendre la vie aussi, au final.
Non, pourquoi? Parce que, de toute façon, alors qu'en alchimie, un savant, lui, il va casser de la matière. On voit bien avec la fission nucléaire, notamment. L'alchimiste, non.
À la fusion, hein, mais
lui, c'est pas de mal à veille. Hein. Il leur manque un élément, ils n'ont pas encore compris, c'est pourtant très simple. Mais bon, c'est pas à moi de leur donner, hein, je leur donnerai surtout pas. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les scientifiques analysent des faits, ils essaient de les recouper, on fait des expériences, ça marche pas, c'est entériné. L'alchimiste, lui, ne se préoccupe pas de ça. Ce qui l'intéresse, c'est le moteur universel de la vie. C'est ça, les effets et les causes, il s'en fout. Ce qu'il veut comprendre, c'est ce qu'il y a à l'origine de tout. Et à l'origine de tout, il n'y a qu'une chose. On peut appeler, on peut qualifier de dynamisme vibratoire universel. Quelque chose qui a mis la machine en route.
Comparable à la théorie des cordes ou comme ça.
Je connais rien à la théorie des cordes, bon,
c'est vrai, c'est la dimension, là, je peux pas.
Je sais que c'est un truc qui doit passionner Bjørnstjerne, notamment. Je pense que c'est l'homme à la mode. Sauf que personnellement, je doute fort qu'il y ait un athanor.
Il parle aussi de la lumière. Hein.
Bah, bien sûr. Ouais, mais ça serait malheureux qu'il n'en parle pas s'il est du Vulcanomie.
Ouais.
C'est clair. Le problème, c'est que tous ces types-là ont tous eu la même chose que moi, mais ils ne comprennent pas la même chose.
C'est la subjectivité.
Oui, mais ça ne peut pas dire. La preuve, c'est que la fameuse définition de la chimie que j'ai donnée à propos de la permutation des formes, personne ne l'a jamais donnée. On a lu le même livre. Il y a autre chose qu'ils ne citent jamais. Alors qu'ils ont lu les demeures aussi. C'est celui qui n'a pas vu l'œuvre en esprit, ce n'est pas la peine qu'il dépense son temps ni son huile. Donc si tu ne l'as pas vu en songe, c'est pas la peine que tu ailles plus loin.
Mais à ce moment-là, on arrête toute recherche.
Ben bien sûr. Mais c'est le but du jeu. Hein.
C'est pas possible.
Si, c'est possible. Si.
Alors ça veut dire qu'il y en a qui voient des trucs et pas des autres et qu'il y a des inégalités.
Non, tout le monde peut voir. À condition d'être, d'avoir travaillé sur soi pour être en état de le voir. Tu es gratifié de songe. Ça dit bien ce que ça veut dire. Dans la notion de gratification, tu as la notion de grâce. C'est la grâce. Tu n'as jamais été frappé par la définition que donne du travail alchimique des anciens. Le mercure suffit pour commencer et finir l'œuvre. Il parle du dynamisme universel, là, de la lumière, si vous préférez. Et que dit Pascal à propos de la grâce? La grâce nécessaire est suffisante. Point à la ligne. C'est la même chose. Ah ben, non, ça stoppe rien. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des tas de gens qui ne se posent pas de questions dans l'existence. Moi, je m'en suis posé depuis que j'avais l'âge de 13-14 ans. Mais bon, autour de moi, il y a des tas de jeunes qui vivent sans se préoccuper de savoir le sens de la vie, et ça ne les intéresse pas. Ils sont tellement occupés à courir derrière la réussite sociale et même la survie, éventuellement.
Même la survie.
On est bien d'accord?
Tout à fait, il faut être
moi, je plains les jeunes, actuellement. Je les plains parce que, bon, nous, ça n'a pas toujours été facile. Mais on perdait un job, on en retrouvait le lendemain. Là, actuellement, vous n'êtes pas sûr de... Et puis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'épuiser pour une société qui ne le mérite pas, qui va exploiter des gens, qui va les jeter à 40 ou 45 ans? Parce que c'est ça, hein. On dit actuellement faire travailler les gens plus longtemps. À 45 ans, on les vire. Moi, on m'a viré à 40. Je me suis entendu dire à l'époque, il y avait un chasseur de tête à l'époque qui m'a dit, vous êtes trop vieux, 40 ans. Vous n'avez pas de diplôme. Je dis, non, je suis désolé, moi à l'époque on était autodidacte. Vous êtes trop cher. Pour finir, vous êtes foutu. J'ai dit d'accord, au revoir monsieur. Puis en sortant sur le trottoir, ça m'était resté un petit peu quand même en travers. Alors je me suis dit foutu. Ben vous allez voir. 6 mois après, je sortais mon premier bouquin. Ce qui s'est su chez mon ancien employeur. Tout le monde était très étonné. L'année suivante, j'en sortais un deuxième chez Presse-Poquette. Ils étaient encore plus étonnés parce que là, il était partout. Et puis, depuis, il y en a eu une trentaine. Ça prouve bien... Bon, c'est vrai que je suis un cas particulier. Mais ça prouve bien le côté aberrant de la société, quoi.
Repartir sur ton cheval des dadas.
Que tu partages.
Ah bah oui, là, on va recréer le chat noir, ça c'est bon. On n'arrive pas, on aimerait bien, hein.
Il faudrait des financiers.
Parce que la culture d'aujourd'hui, c'est pareil.
Mais l'ordinateur, c'est très intéressant l'évolution de l'ordinateur. On est dans le virtuel aussi.
Oui, complètement. C'est-à-dire que c'est que des données. On grave un DVD, c'est que des données, c'est ce qui reproduit tout. On pose souvent la question en fait. À part ça, de manière intuitive, quoi, je me dis, mais c'est que du rien.
Tu te rappelles la déclaration qu'a faite Bill Gates à l'époque, quand ils ont lancé Internet? Il avait déclaré ça. Ça avait été repris par les journaux. Tous les journaux financiers. Bill Gates avait déclaré Internet le système qui n'a ni Dieu ni maître. C'était quand même annoncé la couleur. Même s'il a fait beaucoup de fric avec l'informatique, avec Microsoft, etc. Derrière, il y a quand même une volonté de casser quelque chose. Et de changer des choses.
Non, moi je veux.
La galette. On monte là-haut.
Il faut lire ça dans la boulangerie, ma puce. Elle a fait l'école ce matin à manger, elle prend les cœurs et
tout. Il y a un bouton de quelqu'un
qui est... Hein? C'est une bonne maladie.
C'est que tu disais avant, intervenir avant.
Ça veut dire qu'il y a pas quoi.
Oui, le bateau de la voir était là.
Tu sais?
Non, c'est une propriété privée.
Oui, mais tu sais pas qui.
Je sais pas qui, non.
Maintenant, c'est
nous, c'est Moulin. C'est le Moulin de la Galette.
Tu t'imagines comme c'est joli.
C'est celui-ci de vrai ou c'est celui-ci?
Non, je crois que c'est celui-ci. Alors, il y en avait trois à l'origine. Il y avait le Moulin de la Galette, il y avait le Moulin du Petit Radet, et il y en a un qui a été détruit.
Ah oui, c'est de la...
Et alors, à l'époque, le fils du meunier, enfin du propriétaire, avait été crucifié sur les ailes par les Cosaques qui avaient envahi Paris. Bien sûr. La maison de Dalida, elle est plus haut. T'as l'air fatigué, bon Jean-Claude.
Tu sais, deux nuits cette semaine. Et quand j'ai deux nuits comme ça, pour récupérer, c'est un gros décalage horaire.
Je sais que moi, quand j'en fais une avec toi, parce qu'on quand on fait les émissions, on fait 11h du soir jusqu'à 7h du matin. Et lui, là, il va s'en faire deux.
D'accord. Il faut être décalé.
Complètement.
Vivement Radio Toulouse, hein, pour toi.
Parce que quand t'arrives le vendredi... Allez, on continue, je passe la main. Le cerf me dit qu'il va arrêter là, je sais pas quoi. Qu'il va arrêter de l'or ou je sais pas quoi.
Et quitter, ouais. Bien sûr, ça coûte plus cher que de l'extraire. Et pourtant, la fusion nucléaire, c'est ce que font les plantes. Et elles n'ont pas d'accélérateur de particules.
Ah ouais.
Elles maîtrisent la photosynthèse. Ouais. Chose qu'on n'est pas foutu de maîtriser nous.
Ouais, pourtant c'est pas. Ouais. On pourrait avec le soleil.
Mais... Oui, mais on le fait pas. Moi je pense que l'alchimie c'est quelque chose de très très basique, c'est basé uniquement sur l'observation des règles de la nature et des lois de la nature. Une poule, elle transmute toute la journée en faisant des œufs. Une plante, ça transmute.
Ah, il y a la spagyrie.
Non, mais je ne parle pas de spagyrie. La spagyrie, c'est l'utilisation des plantes en libérant leur quintessence. La quintessence, la spagyrie. La spagyrie, tu fais des huiles essentielles, tu fais des médicaments, tu libères la quintessence.
La quintessence, par contre, c'est un principe.
Oui, bien sûr. Oui, mais la philosophie aussi. Ouais. Qu'est-ce que fait que la quintessence?
C'est l'essence des choses.
C'est l'essence des choses. C'est la cinquième essence, c'est le cinquième élément. Ah oui. C'est celui qui contient les quatre autres.
Qui les relie,
qui les contient.
Ah ouais.
Ça contient... l'air, l'eau, le feu, la terre. Et jusqu'au 14e...
L'amour, en fait, c'est ça. C'est...
Non, non, c'est le dynamisme vibratoire. Non, pas spécialement. Alors là, eux, ils donnent ça comme étant le moulin de la galette, mais bon, c'est le resto, hein, donc savoir lequel c'était à l'époque. En fait, il y en avait trois à l'époque. Il y en a un qui a disparu, mais il a dû brûler, je crois.
Non,
non,
pas dit que c'était l'ancien bateau de voir, là.
Non, pas spécialement. Mais...
Les choses...
C'est bon, voilà.
Daniel m'a donné un coup. Daniel m'a donné un coup à l'hôpital.
Non, mais les choses qui le bien n'y a pas, ils passent dessus.
Non, tu sais,
c'est bon, tu as déjà mangé là? Tu as déjà mangé?
Non, jamais. Mais c'est un peu cher.
Pas tellement.
C'était pas très cher, mais il n'y avait pas tellement de choix, c'est pour ça que. On est pas venu. Par là, je crois.
Ah bah, j'espère.
Par où?
Non, il croit.
C'est quoi là? À demi-tour.
Ouais, on n'est pas perdu.
Ça c'est une réplique à usage commercial, ça c'est tout.
Je crois, oui, il me semble. Ou alors c'est celui du petit radet, je sais pas.
Alors, baptisé pour le...
Parce que tu sais, c'est difficile de savoir. Il faudrait voir les plans de l'époque. Elisabeth, ça va lui plaire, ça. Parce que j'ai mon artiste peintre là, qui va m'autoriser à reproduire une de ses toiles pour mon prochain bouquin en couverture, qui peint des chats, mais sur des toiles symbolistes.
Sur des quoi?
Sur des toiles symboliques ou symbolistes.
D'accord.
Donc, sur fond de... l'illustration de décor alchimique, elle met toujours des chats en général.
D'accord.
Normal, parce que le chat, c'est l'animal vénéré par les Égyptiens. Hein. Cela étant dit, une fois qu'on a dit ça, pourquoi? Personne n'en sait rien. Il y a deux raisons.
Alors, la première.
On va peut-être en parler à Elisabeth aussi, parce que je ne sais pas si elle le sait. Elle est arrêtée là-bas.
Faites attention quand vous mettez vos bords, hein, parce que
tendance suicidaire, je ne... Nous sommes partis. Qu'est-ce que t'as à vendre? Ah ben voilà, il faut se grouper, acheter ça, faire le chat noir. Hein, qui veut d'actionnaire, là, des futurs chats noirs? C'est ça. Hein? Bah oui, vendre, c'est mieux d'avoir les murs. Tu peux grouper.
Surtout ici, ça va. Non, j'ai bien une copine dont l'appartement est payé apparemment par Bono et Sting, par un ami de Bono et de Sting, qui est un milliardaire dans l'industrie. Mais bon, je suis pas sûr qu'il veuille acheter ça pour en faire un chat noir, tu vois. C'est... Bon, on va monter.
Ah bon, je croyais que tu parlais.
Non.
Galette, alors, rien
le,
à voir
le coup
avec
des chats.
Ah oui.
Vous voyez pourquoi le chat a été divinisé par les Égyptiens?
Écoute, Noémie, ça
bien, il y a deux raisons. Il y a deux raisons, parce que chez les anciens, le... Je vais essayer de me centrer par là, parce que si je parle par là... oui, le chat a été divinisé par les Égyptiens, mais il y a deux raisons. En fait, tout le monde dit ça. Le chat a été divinisé par les Égyptiens, il y a une raison, bon, etc. Or, personne ne sait pourquoi, et personne ne le dit en général. Il n'y a que deux raisons à ça. La première, c'est parce qu'on s'était aperçu que la pupille de l'œil des chats changeait en fonction de la luminosité, ce qui fait qu'il affectait les phases de la Lune, tout simplement. Or, toute l'Égypte est basée non pas seulement sur le thème solaire, mais également sur le symbolisme lunaire. D'ailleurs, Thoth, c'est un dieu lune chez les Égyptiens. Et le deuxième point, c'est parce que les vibrisses, les moustaches du chat lui permettent de s'orienter mieux que sa vue, finalement. Et vous aurez remarqué que les vibrisses sont en forme de X, qui est le symbole de Polytechnique, on dit bien l'X, et qui est, du point de vue symbolique, l'écriture de la lumière par la lumière elle-même. C'est le symbole de la lumière, le X. D'où d'ailleurs son adoption par l'école polytechnique, parce que c'est l'école supposée dispenser les lumières de la connaissance. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est la devise de Polytechnique, c'est « soufre et potasse pour l'X ». Alors ça veut dire, bon, souffrir du verbe souffrir, parce qu'il faut bosser, travailler, pour l'école polytechnique. Mais lui, à un autre niveau, ça vous donne soufre en tant qu'élément chimique, plus potasse, ça donne un dégagement de chaleur et de lumière.
J'ai parlé de l'X, mais rien, oui. Les ailes du moulin
elles sont en X. Et d'ailleurs, d'après ce qu'on en sait maintenant, Fulcanelli prétend que ça serait l'œuvre de Stenlen, et notamment sa reproduction du chat qui servait d'affiche au cabaret du chat noir, la forme des moustaches du chat lui avait été imposée dans le milieu hermétique, pour reproduire justement la forme des ailes du moulin de la galette. Mais bon, derrière cette affirmation, il y a d'autres choses. Je ne peux pas en parler, ça nous emmènerait un petit peu loin. C'est un problème d'identification de personnages. Hein. On est toujours dans un double langage. Hein. C'est un langage diplomatique chez ces gens-là. Que ce soit chez les artistes initiés, entre guillemets, chez les gens qui faisaient de l'alchimie à l'époque. Ils disaient ce qu'ils voulaient bien dire et ils laissaient sous-entendre d'autres choses pour ceux qui étaient capables d'aller un peu plus loin et de comprendre ce qui était sous-entendu. Mais c'est la démarche, si vous voulez, de toute œuvre initiatique et symbolique. Les artistes sont toujours pratiqués comme ça. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure à propos d'autre chose des corporations ouvrières et notamment des corporations de peintres. Elles étaient regroupées sous un symbole très particulier que j'évoquerai, que je développerai tout à l'heure.
Donc, ça, les deux explications concernant le...
D'une part, c'est la variation des pupilles.
Ses pupilles
et deuxièmement, c'est la forme des moustaches. Voilà.
Ça, c'est deux explications
qui me semblent tenir la route.
Pourquoi ça symbolise la lumière, le X ?
Parce que ça a toujours été le symbole de la lumière.
Quelle question !
Parce que... Mais la galette,
d'ailleurs,
la galette, c'est un gâteau, mais c'est aussi de l'argent.
Mais c'est de l'argent. Oui, bien sûr. C'est bien pour ça que je faisais allusion à un rébus qui donnait le nom d'un personnage. Je me posais la question pour Fulcanelli et Jobert, tout simplement parce que argent en vieux français, c'est Aubert. Si tu retrouves le J dans un rébus, bah t'as Jobert, hein, c'est la charade. Et c'est pour ça qu'il parle de ça. Et de... cela étant dit, je ne sais plus de quoi tu me parlais juste avant l'histoire de la galette. Tu me parlais de quelque chose ?
C'est France qui peut
la lui, voilà. Oui, il y a une deuxième raison, c'est que comme chacun ne le sait pas, ce qu'on appelle le chiasma, c'est-à-dire les nerfs optiques, ils sont croisés en X. Parce que s'ils n'étaient pas croisés, vous ne pourriez pas voir les choses à l'endroit comme vous les voyez, vous les verriez comme on les voyait dans un appareil photographique, hein, la tête en bas. Et chiasma, ça débute par un chi, en grec. Qui est l'équivalent de la croix, oui, bien sûr. Donc de la croix, celle-là, pas la croix chrétienne, ouais, latine. Voilà. D'ailleurs, les anciens peintres jouaient souvent sur la notion de qui et d'euro. Hein, c'est-à-dire, le qui, c'était la clarté lumineuse, l'euro, c'était la chaleur lumineuse. Ce qui explique d'ailleurs le listel que vous voyez sur la croix de Jésus. Hein. Vous avez un ro, un R.
Et le qi, tu retrouves en chinois. Le qi, l'énergie, c'était un taux.
C'était un taux. Mais par contre, vous avez le n, INRI. Alors vous savez que chez les sémites, il y avait que les consonnes qui avaient une valeur. Et le n, c'est la lettre des permutations, des mutations ou des permutations. Si vous, l'ajoutez au r, voilà, bien sûr. Si vous l'ajoutez au ro, au r, ça vous donne permutation de la chaleur lumineuse. Par la chaleur lumineuse. Et c'est pour ça, effectivement, qu'à Rennes le château, le N est inversé. C'est pour attirer l'attention là-dessus. Ou à Saint-Sulpice. Mais personne n'en parle jamais à ce niveau-là, parce qu'ils ne veulent pas admettre que c'est une histoire d'alchimie, là-haut. Il y a que quelques individus... C'est le grand homme, bien sûr. Derrière tout ça, tu as l'abbé Boudet à Rennes-les-Bains. C'est pas Saunière. Saunière, c'était le faire-valoir. L'érudit, là-bas, sur place, dans l'Aude, c'était l'abbé Boudet. Qui avait parfaitement compris comment les anciens grecs écrivaient, comment ils utilisaient ce qu'on appelle le salatique, qui vient d'Athènes. Le salatique, pour un Marseillais, ce serait la grosse galéjade, hein, c'est la grosse plaisanterie. Bah, Homère, c'est de la grosse plaisanterie. D'ailleurs, Homère, ce n'est pas un personnage historique. Hein. On vous dit il est aveugle, en grec, homéron, ça veut dire aveugle. Donc, c'est le surnom d'une école et c'est un jeu de mots. C'est pas...
Et certains disent qu'il n'a jamais existé.
Non, il n'a jamais existé.
C'est un mythe, une fiction.
Au même titre que Troyes n'a jamais existé en tant que tel. Ce que Schliemann a trouvé.
Ils ont
trouvé des druides, mais ça n'a rien à voir avec Troyes. C'est comme la Jérusalem, si tu veux, pour laquelle on se bat. C'est pas une Jérusalem terrestre, géographique, c'est la Jérusalem céleste. Pourquoi on se bat pour un bout de terrain qui est grand comme un mouchoir de poche? C'est ridicule.
Il n'y a jamais une muraille à Jéricho, donc jamais une trompette.
Oui, j'ai même des doutes sur l'existence de Josué. Hein. C'est la légende, c'est le mythe.
Tu peux le dire, hein, c'est autorisé.
Alors, non seulement ils nous prennent pour des cons, mais ils nous laissent pour des cons.
Ouais. Les mythes, ils viennent de quelque part.
Ils viennent de gens qui étaient des mystagogues. C'était le métier de créer des mythes, de les inventer,
oui, mais d'après quoi,
pour que ça traverse les siècles, tout simplement.
De mythes pour l'humanité, de l'humanité.
Et puis, il faut faire un peu d'étymologie aussi, savoir que mythe, c'est la même origine que... Ça provient du mot grec qui est mustès, qui veut dire à la fois initié, mystification, mystère. Ça veut dire aussi scorie, résidu. Et si tu n'as pas de mystifié, de mystificateur et de mystification, tu n'as pas d'initiation. L'initiation, c'est une mystification.
Et ça va jusqu'à mystique aussi.
À débattre.
Mais ils le savent bien, ils le savent bien.
Je tends le micro.
Ils le savent bien, bien sûr.
Donc que ce soit, parce que si on l'écoute sans arrêt, on va être pris par toutes ces connaissances qui sont les siennes.
C'est une mystification. C'est une mystification au sens où on l'entend, dans le sens des anciens mystères du Moyen-Âge. C'est pas pour rien que Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris fait débuter son bouquin pratiquement sur la présentation de Pierre Gringoire, qui est en train d'écrire un mystère. Or, on vous le dit bien dans le texte d'Hugo, que c'est un type qui a lu beaucoup, il est très, très cultivé, Pierre Gringoire, c'est un étudiant, un escolier, mais il est versé aussi, il n'ignore rien, il le dit lui-même, de l'alchimie. On est dans une connaissance qu'elle... N'oubliez pas non plus que les arts libéraux qu'on enseignait à l'époque, l'alchimie n'en faisait pas partie, elle était classée à part. Mais elle figurait dans les arts et les sciences qu'il fallait connaître. Tout le Moyen-Âge est incompréhensible, enfin toute la philosophie du Moyen-Âge, la peinture du Moyen-Âge, comme celle de la Renaissance, notamment en Italie, surtout en Italie d'ailleurs, si on ne conçoit pas qu'on baignait dans une atmosphère hermétique. Toute la cour de Laurent le Magnifique, c'était une cour qui baignait dans l'alchimie, comme celle d'Heidelberg, après, plus tard, au XVIIe siècle. On monte sur le boulevard.
Est-ce que tu connais Torquemada de Victor Hugo?
Oui, tout à fait, oui.
C'est génial aussi comme œuvre. Hein.
Comme toute l'œuvre d'Hugo, à mon avis.
D'accord. Bon, ben il pleut, et on est toujours à Montmartre.
Et ça monte pour aller à Montmartre.
Et ça monte. Hein.
J'avais intérêt à monter.
Ah, le cancan, là, ça serait pas mal, oui.
Putain, moi, j'habiterai ici, le pied. Waouh, trop beau.
Le problème, c'est que, ou ce sont des gens qui ont hérité de génération en génération au moment où le terrain valait pas grand-chose, ouais. Ou ce sont les nouveaux riches qui sont installés.
Maintenant,
il y a Richard Berry qui habite ici, il y a une bonne partie du gratin cinématographique.
Ouais. Bon. Et Orlando, il habite toujours là?
Oui, toujours. Ouais. Toujours. Il vit abondamment en déclinant les droits de sa sœur.
De ce côté-là, hein, il n'est pas dans le sou.
Hein. Ah, c'est vraiment marrant, de la nuit, quoi, la boboisation de la ville. Quoi, c'est vraiment, on fait des trucs, moi, des riches et tout. À Paris, c'est... Je suis jamais venu à Montmartre, la rue de Pic. Donc on n'est pas loin de la rue Saint-Vincent. C'est là qu'il y a...
Non, faut monter. Hein.
Et les oiseaux, vous écoutez les oiseaux?
Ah oui, on va monter parce que... On va arriver là sur le... Parce que c'est sur la... Oui, ben, la Zutère, on va passer derrière.
On va au musée, là, c'est ça?
Oui. C'est le musée, vous êtes derrière, donc on est obligé de passer derrière, là. Ou on aurait pu passer par le banc, mais ça montait plus.
Qui était le pic? Jean-Baptiste Clément, ton esprit. Qui était le pic?
Ça doit être le général le pic. je pense. Ouais. Il semble. Le commandant le pic, je ne sais plus. Non, ça valait rien à l'époque.
Je suis venu des dizaines et des dizaines de fois, on ne rentre jamais avec les
forces. Et comme je disais, c'est parce que les anciens héritiers, si tu veux, avaient des parents qui vivaient là, c'était des endroits où vivaient des artistes. Bon, ils ont hérité. Puis après, tu as tous les bobos aussi qui ont acheté l'air. Donc ça fait monter le prix du terrain. Non, c'est l'ancienne fontaine de je sais plus quoi.
La fontaine de la rue.
Oui. Mais ça devait faire partie de, d'anciens bâtiments qui ont été détruits. Non, c'est. Je crois qu'il faut qu'on passe derrière.
Non, parce qu'après, après, on se retrouve derrière le salle de voilà.
Là, on est rue Norvin, là. T'as le plan, tu l'as emmené ou pas?
C'est pas marqué. On
rue des Saules, c'est bon.
Alors attention là, parce qu'il y a plein de monde.
On va attendre que Nono aille.
Noémie va chercher quelque chose à manger.
Bon, moi je vais m'écarter un peu et fumer un peu. Hein, parce que... Pardon.
C'est ça.
Voilà. On attend que la petite aille chercher son déjeuner là-bas.
Attends, je vais faire un arrêt du dictaphone. Ah. Ça évitera de tiens tes papiers dans ta poche. Tu ne peux pas les perdre.